divertir, mais surtout vous informer, nous l'espérons. On vous parle de beaucoup de choses, entre autres, on commence par, comme d'habitude, par l'essentiel survol de l'actualité en environnement. On vous parle, entre autres, de privatisation de l'eau, de magique, de la MacPaille et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, entre autres, que l'Arctique fond, semble-t-il. On vous en reparlera. On vous a aussi monté un petit dossier sur les OGM, un petit dossier, ça me semble tout à fait paradoxal. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit dossier sur les OGM? On vous en parle. Et finalement, on conclut comme d'habitude par nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Émission bien spéciale cette semaine en studio avec moi, Nicolas Mainville!
Lui et seulement lui.
On a eu des petits problèmes techniques, c'est ce qui explique cette émission un peu spéciale. Donc, Sofiane Legendre au micro en compagnie de Nicolas Mainville, le guerrier de Delirium Environnemental, ainsi qu'à la mise en onde à la régie. Étienne Côté-Palluc, c'est également lui qui fait notre site web que vous pouvez toujours trouver au www.radiodelirium.net. Alors, le monde pleure aujourd'hui, semble-t-il.
La Comment planète tu prends est ça, triste. Sofiane? Est-ce qu'on va survivre à cet apocalypse? Évidemment, on fait allusion à M. Bush.
Oh, je sais pas s'il a le titre de monsieur encore, lui. Hein.
Ah ben...
Personnellement, je suis un peu contrariée, un peu décontenancée, un peu déconfiturée aussi. J'avais l'impression que ça serait ce que ça nous aurait pris pendant ces quatre années-là où est-ce qu'il a été au pouvoir, de voir... Je m'excuse, je sais pas si ta CIA va débarquer ici, là, mais de voir la bêtise et l'ignorance et l'égoïsme à son apogée comme ça, je pensais que c'est ce que ça nous prenait, nous, l'humanité, pour nous réveiller.
Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est quand on regarde les dossiers environnementaux, évidemment, qui ont dégradé de façon flagrante pendant les quatre dernières années. Vous savez, l'administration Bush a été la pionnière dans le massacre de toutes les politiques environnementales états-uniennes, que ça l'aide dans le Clean Air Act ou le Clean Water Act, les deux fondements de base de l'administration américaine, point de vue qualité de l'air et qualité de l'eau.
Mais en fait, on pense que c'est ce qui avait le plus contribué à améliorer la santé publique aux États-Unis, ces deux actes-là desquels tu parles, donc le Clean Air Act puis le Clean Water Act. Mm-hmm. Depuis les 30 dernières années, ça avait été deux outils légaux dont les États-Unis s'étaient dotés pour leur assurer leur sécurité et donc leur santé reliée à l'environnement, bien entendu. Un excellent article qui est paru dans Le Devoir, ça s'appelait « Les politiques vertes de la Maison-Blanche, vertes en très grosses guillemets ». C'est paru lundi le 1er novembre 2004 sur la plume de Alexis Beauchamp, qui est chercheur au Centre d'études internationales et mondialisation à l'Université du Québec à Montréal. Donc, ils disent que c'est le pire bilan, en fait, depuis les 30 dernières années. Il y avait également Reagan, qui avait été Ronald Reagan. On se souvient, quand on met un acteur comme président, on peut s'attendre à peu près n'importe quoi, hein? Mais quand on met un ancien cocaïnomane, ça peut être encore bien pire. Bref, c'est seulement Ronald Reagan, dans les années 80, qui avait été pire que M. Bush. Dans cet article-là, M. Beauchamp, Alexis, parle de la science politisée. On se souvient que Bush a renié la thèse des changements climatiques. Mm-hmm. Il vient tout juste, en 2003, de se réveiller et dire « Ah, OK, c'est peut-être possible, cette histoire-là de changement climatique. »
Ouais, ben je veux dire, il est rentré sur la scène en refusant Kyoto tout de suite en partant. On connaît les pressions qu'il y a eu, notamment avec la multinationale Exxon Mobil. Et puis c'est intéressant, cette semaine, la reine qui est sortie de la reine
qui
a pris position par rapport justement à la position états-unienne sur les changements climatiques. Elle a apparemment appelé personnellement Monsieur Tony Blair, en lui disant, écoutez, à la prochaine réunion du G8, vous avez comme mandat de parler des changements climatiques, de mettre le dossier des changements climatiques sur la table devant les 8 pays du G8. Et puis, la reine s'est montrée profondément inquiète de la position des États-Unis par rapport au changement climatique et par rapport au fait qu'ils n'acceptent pas encore cette théorie ou que du moins ils n'acceptent pas de passer à l'action point de vue changement climatique. Extrêmement intéressant de voir la reine.
C'est une des rares fois
qu'on voit la reine sortir de la reine.
Oh, c'est beau comment tu parles. On se souviendra que son fils, à ma connaissance, je connais rien dans la monarchie, là, son fils, le prince Charles, est un fervent du biologique, mm-hmm. des cultures biologiques. Il a lui-même son entreprise depuis longtemps d'aliments biologiques. Il produit maintenant également des bœufs et des veaux biologiques. Ça a été un précurseur de cette façon de faire en agriculture là-bas, dans leur beau pays.
Vous savez qu'elle dénonce déjà les impacts des changements climatiques sur ses propriétés en Scotland, en Écosse, et puis dans l'est de l'Angleterre. Donc, elle voit déjà les impacts des changements climatiques. Elle donne pas de détails nécessairement sur c'est quoi ces impacts-là, mais apparemment, elle est très préoccupée. Donc, on s'en réjouit.
On s'en réjouit. Ben, ça risque de coûter très cher en Angleterre, les changements climatiques. On sait que c'est quand même un pays qui est bordé d'eau. Donc, l'augmentation des niveaux de l'eau peut avoir de graves conséquences en termes d'inondations, fort probablement.
Il y a, en plus, parce qu'on se fait un petit bloc États-Unis, puisqu'on est dans cette journée post-électorale, et qui, malheureusement, ce matin, a donné probablement un choc à la planète en entier, puisqu'on on parle environ de 4 millions d'électeurs de plus qui ont voté pour Bush. Donc, c'est une décision qui est quand même assez... on sait que les chiffres sont pas officiels encore, mais bon, une décision qui doit sacrer une volée à bien des gens, point de vue environnemental encore plus. J'aimerais ça juste vous parler d'un petit article que je suis allé chercher sur le New York Times, qui nous dit qu'en ce moment... Il y a une grosse étude qui est sortie sur l'état de l'Arctique. Vous savez, on en parle souvent des changements climatiques et de la fonte de l'Arctique. C'est probablement un des sites sur la planète où est-ce qu'on remarque le plus les changements climatiques et de façon accélérée. Donc, une grosse étude qui a été faite par le Conseil de l'Arctique, qui est en fait 8 pays des pays qui touchent à l'Arctique. Donc, attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Les pays étant la Russie, le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Norvège et la Suède et les États-Unis. Donc, ces pays-là se sont mis ensemble pour étudier l'évolution du climat dans cette région-là. Ça fait 4 ans qu'ils font ce gros projet-là qui est appelé le Arctic Climate Impact Assessment. Et puis, ils ont récolté des données depuis 30 ans. Et puis, les conclusions de cette recherche-là montrent à quel point il y a une corrélation directe entre les émissions de gaz à effet de serre sur la planète et la diminution de la qualité de l'environnement en Arctique et la fonte des glaces et la fonte du pergélisol. Vous savez, ce sol qui est constamment gelé. Et puis, la réduction des tailles des glaciers, tout ça. Ce qui est incroyable dans ce dossier-là, c'est que l'administration Bush a fait des pressions immenses pour que ce rapport-là sorte non pas en septembre comme c'était prévu, en septembre dernier, mais bien après les élections, donc le 9 novembre, parce que les conclusions du rapport sont alarmantes et elles décrivent directement les positions de l'administration Bush.
Mais comment toi, t'as pu y avoir accès?
Eh bien, c'est le New York Times, en fait, qui fait cet article. Et apparemment, c'est des scientifiques au sein du Arctic Council, du Conseil de l'Arctique, qui ont dénoncé justement les pression autant des chercheurs états-uniens que de l'administration Bush en général pour reculer le dépôt de ce rapport-là. Et puis, on a déjà des petits hits spéciaux, des scoops qui sortent de ce rapport-là et apparemment, c'est très dénonciateur. Donc, on devrait voir le rapport sortir le 9 novembre prochain, donc la semaine prochaine.
De retour à Delirium Environnemental, toujours Sofiane Legendre au micro, toujours en compagnie de Nicolas Melville. Merci d'être là, Nicolas. Petite émission spéciale. On sait que les scientifiques, mais ça doit pas être des scientifiques bien bien sérieux qui ont trouvé cette solution-là. On sait que, bon, la thèse des changements climatiques, maintenant qu'elle a été reconnue par tous et chacun, on essaie donc de trouver des solutions pour se débarrasser du CO2, du gaz carbonique. Et il y a une de ces solutions-là qui nous semble absolument farfelu. On a eu une très, très, très brillante idée qui consiste à quoi, Nicolas?
Ben, ça consiste à enterrer carrément le CO2 dans le sol.
Pas de problème, on enterre nos problèmes.
C'est vraiment ça, en fait. Il y a de plus en plus de propositions un peu partout dans le monde, surtout, en fait, c'est 3 articles que je suis allé chercher cette semaine, qui font la promotion de la séquestration du carbone, c'est-à-dire de l'injection du CO2 qu'on émet par le biais des centrales thermiques, surtout les centrales au charbon. Donc, ce carbone qui est émis, on le réinjecte dans les nappes de pétrole sous-sols qui sont maintenant vides. Donc, c'est un projet qui court un peu partout sur la planète, notamment en Saskatchewan, un projet de 28 millions qui roule en ce moment, où est-ce qu'on injecte justement dans une nappe, pas une nappe phréatique, mais une nappe pétrolière désaffectée, des quantités impressionnantes de CO2. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un oléoduc, ou en fait un gazoduc, qui part du Dakota du Nord, et qui s'en va pendant 200 km, 200 000, jusqu'en Saskatchewan. Puis, on injecte cette quantité, ce CO2-là.
Fait que là, on ramasse encore les cochonneries des États-Unis pour les enterrer chez nous.
Ben,
quand on les brûle pas, on les enterre.
Juste pour faire une histoire rapide, en ce moment, il y a différents projets. Il y a même le ministre de l'Environnement l'Angleterre qui lance un appel aux pays industrialisés pour que ça devienne une solution. C'est-à-dire que on va séquestrer le carbone qu'on émet, au lieu de l'envoyer dans l'atmosphère, on va l'envoyer dans le sol, puis on va s'assurer qu'on va augmenter notre production pétrolière en faisant ça. Parce qu'une fois qu'on injecte le CO2 dans le sol, dans les nappes pétrolières, eh bien la pression augmente et puis le pétrole sort plus rapidement. C'est en fait une pratique qui existe déjà au Texas, c'est-à-dire qu'on va injecter du gaz pour que le pétrole sorte plus rapidement. Sauf que, bon, évidemment, ça apporte plusieurs questionnements, notamment au point de vue environnemental. Est-ce que le fait d'injecter du CO2, c'est durable comme pratique? Est-ce qu'on va pas se retrouver avec juste un patchage de problèmes, des fuites de gaz qui vont sortir dans 10 ans au lieu de sortir tout de suite? Il y a aussi toute la question de la contamination des nappes phréatiques. Je veux dire, c'est pas juste une belle petite bulle de gaz qui s'en va dans le sol, là. C'est des cracks un peu partout. Est-ce qu'il y a risque de contamination? C'est des questions qui sont soulevées, mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là ou ces idées-là sont promues surtout par les gens de l'industrie pétrolière, puisqu'ils connaissent déjà bien le monde du forage et le monde de l'injection des gaz dans le sol. Et puis, on se rend compte, comme je disais, qu'il y a une augmentation de la production assez flagrante lorsqu'on injecte le gaz. Donc, les gens de l'industrie pétrolière sont intéressés à faire ça, ou en tout cas, certains sont intéressés. Et puis, donc, c'est ça, c'est l'Angleterre qui lance le projet. Il y a déjà un projet qui marche ici au Canada. Il y en a un qui s'en va au Japon aussi, qui est déjà en route. La mer du Nord qui est en train de réfléchir à ça. Donc, une espèce de stratégie un peu broche à foin, bout de tuyau, où est-ce qu'on va enterrer nos gaz à effet de serre. L'administration Bush, qui, dans son plan énergétique, propose que d'ici 2012, 90% des émissions de CO2 soient réinjectées dans le sol dans les différentes nappes pétrolières un peu partout aux États-Unis. Donc, c'est un plan d'ici 2012, et 90%, c'est énormément. Vous savez que, les États-Unis sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sur la planète. On parle d'environ un quart des émissions planétaires. Et puis, avec ce programme-là, on remet tout en question les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre, mais on parle seulement du CO2. Donc, le problème en ce moment, c'est l'isolation du CO2, parce que vous savez, ce qui sort des centrales thermiques, les gaz qui sortent, c'est pas seulement du CO2. Il y a du dioxyde nitreux, il y a des quantités, un beau cocktail chimique qui sort de là. Et puis, le CO2, pour l'isoler, c'est en ce moment très coûteux. On parle d'environ $30 la tonne de CO2 pour isoler ce CO2-là, donc $30. Et puis l'administration Bush est en train de pousser pour réduire les coûts d'isolation de CO2 à environ 10-8$.
On peut s'imaginer qu'il va y avoir des avantages, parce qu'avec toutes les tractations, là, la bourse, les nouvelles bourses de la pollution, c'est-à-dire que maintenant on peut avoir ce qu'on appelle des permis échangeables. On a le droit de faire quelque chose en échange. Par exemple, moi j'ai de la place, j'ai plus de puits de carbone, donc je peux produire plus de gaz à effet de serre. Mm-hmm. On s'imagine que c'est un peu dans cette logique-là qu'ils doivent être si intéressés en disant on va se débarrasser, ben probablement à court terme, pas que je connais grand-chose en géologie, mais il me semble que je m'imagine de gros pets de CO2 qui sortent de la couche terrestre, non?
C'est vraiment une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir les choses. Le fait qu'on crée un marché boursier du carbone avec l'entrée en vigueur de Kyoto, même si les États-Unis n'ont pas ratifié Kyoto, je pense que de plus en plus, on s'oriente vers des échanges de crédits de carbone, des différents projets pour capter le carbone. On pense entre autres à CO2 Solutions qui est d'ailleurs en train de faire des percées dans le marché international. CO2 Solutions qui est une compagnie canadienne et québécoise qui a développé un système de captation du carbone émis par les centrales thermiques ou les usines par le biais d'un espèce de bioréacteur. Donc, c'est des enzymes de bœuf, de sang de bœuf, qui captent le CO2 émis et puis le transforment en bicarbonate. Donc, une façon bien simple de ne pas laisser le CO2 sortir des cheminées et puis le transformer en bicarbonate qui n'a pas d'effet sur le problème de l'effet de serre comme tel. Donc, une solution technologique à un problème environnemental. Il y a beaucoup de gens qui mettent plusieurs espoirs là-dessus. Je suis profondément sceptique par rapport à l'approche bout de tuyau, puisque on se retrouve à négliger d'une certaine façon la source du problème, qui sont nos habitudes de consommation, nos niveaux de consommation, nos choix énergétiques. On est de plus en plus appelé à réorienter nos approches énergétiques, que ça soit avec les énergies renouvelables, que ça soit avec justement le solaire, l'éolien, la géothermie, la biomasse. Donc il y a plusieurs alternatives qui existent, et puis ces discours-là technologiques font en sorte que on laisse de côté un peu le réglage du problème à la source. Ça se dit pas du tout.
C'est beau. Retour à Delirium environnemental. Je vous rappelle que c'est une petite émission spéciale. On se la fait à deux, à Nicolas Maville et Sofiane Legendre en studio, et bien sûr à la technique, en fait, à la régie, Étienne Côté-Paluc. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller voir les articles desquels on vous parle sur notre site internet au www.radiodelirium.net. Cette semaine, ou plutôt la semaine passée, un rapport accablant, encore une fois, sortait. Madame Joanne Gélinas, qui est commissaire à l'environnement et au développement durable, remettait son rapport annuel. Un rapport bien intéressant, un rapport en 6 chapitres, où elle parle de la façon dont le gouvernement canadien gère les affaires environnementales. C'est intéressant de voir que ça allait complètement dans le même sens que ce que les conclusions de l'OCDE, du rapport de l'OCDE sur donc l'Organisation de coopération et développement économique disait. Donc on est très bon, le Canada est très bon en parole quand vient le temps d'énoncer des grands principes de développement durable et de mettre en place peut-être des idées ou de faire avancer les idées en termes de développement durable et d'environnement. C'est bien intéressant. Par contre, là où le bas blesse, comme toujours, c'est quand vient le temps de la mise en œuvre effective. Donc, quand vient le temps d'agir concrètement, ben là, encore une fois, le Canada s'est fait ramasser. On se souvient que les titres de journaux concernant le rapport de l'OCDE étaient absolument clairs. On traitait le Canada de cancre, rien de moins. Le poche de la classe était un des pires pays au monde en termes d'action environnementale concrète. Dans les différents sujets qui ont attiré l'attention de la vérificatrice générale, donc je m'excuse, de la commissaire à l'environnement et au développement durable, les accords internationaux en matière d'environnement. Elle était très déçue parce que le Canada ne sait toujours pas quel résultat il obtient en vertu des accords internationaux. Mm-hmm. Donc on s'engage, mais on fait pas de suivi, on n'assure pas le suivi. Ensuite, l'Agence canadienne de développement international et l'environnement et d'environnement et l'aide au développement en général, ça c'était le sujet du chapitre 2. Bien qu'on a des beaux programmes, encore une fois, en parole, on n'est pas si mal. Par contre, elle disait que l'ACDI, qui est l'Agence canadienne de développement international, agit un peu à l'aveuglette en matière d'environnement, c'est-à-dire qu'elle a encore beaucoup de difficultés à intégrer les facteurs environnementaux du développement dans ses analyses, justement, de développement. Ensuite, moi, je pense que un chapitre qui me semblait bien intéressant, c'était le chapitre 3, parce que ça parlait vraiment des stratégies de développement durable, soit l'utilisation d'un régime fiscal et la gestion des déchets solides du bureau. C'est drôle comme pourquoi elle a mis ces deux choses ensemble. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'il fallait vraiment procéder à l'écologisation du régime fiscal, c'est-à-dire que faire attention pour pas donner du financement ou des subventions qui soient nuisibles à l'environnement, essayer d'appliquer des critères d'éco-conditionnalité. Et puis finalement, un autre des grandes conclusions, c'était que malheureusement, ça on continue trop de penser en vase clos au gouvernement, mm-hmm. c'est-à-dire ministère par ministère, sans qu'il y ait une communication effective entre chacun de ces ministères-là. Et puis, le développement durable n'est pas encore intégré dans chacun de ces ministères-là de façon intégrée, c'est-à-dire que on continue de penser en vase clos. Puis, par exemple, au ministère des Transports, on n'a pas exactement idée de quels sont les objectifs de développement durable qui ont été fixés au gouvernement central. Donc, dans ce sens-là, c'est difficile d'agir puis de faire les choses de la bonne façon s'il n'y a aucune communication entre les différents organes responsables de la mise en œuvre du développement durable.
Il y avait aussi des bons points qui étaient apportés par la commissaire, justement sur les quantités d'informations qu'on a au Canada. Par exemple, Pêche et Océans Canada, qui connaît très peu les stocks de poissons, autant dans le Pacifique que dans l'Atlantique. Et puis, on se retrouve à gérer des traités internationaux sans vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, ce qui reflète un peu la position canadienne, qui est très forte, encore une fois, sur les discours, sur la prise de position, et qui jouit d'une image internationale de pays relativement vert, progressiste, et vous savez, l'image du Canada est quand même assez forte. Sauf que quand on regarde dans le détail, bon, on se rend compte que c'est assez décevant. Et je pense que l'exemple de Kyoto est un bon exemple. Il y avait des articles qui sortaient il y a environ un mois qui nous disaient que les États-Unis, en ce moment, font mieux que le Canada, point de vue réduction des émissions de gaz à effet de serre, mm-hmm. comparé au Canada, puisque...
Bien qu'ils
n'ont pas ratifié Kyoto, mais c'est vraiment les États états-uniens qui vont de l'avant avec différents procédés, différentes manœuvres. Et puis, le Canada, encore, dont son plan Kyoto est pas vraiment mis en branle. Il y a beaucoup de questionnements. Même le discours du trône n'avait pas vraiment mis d'emphase là-dessus. Donc, c'est extrêmement inquiétant. On se rappelle, la semaine passée, Stephen Guilbeault nous disait à quel point on se demande comment autant le ministère de l'Environnement que le Canada en général va faire pour atteindre ses objectifs de Kyoto. Le plan est louche, mais on a ratifié et on est plein de bonne volonté d'une certaine façon sur papier. Donc, je trouve que c'était extrêmement intéressant de voir le rapport de la commissaire à l'Environnement et au Développement durable qui nous sort ces conclusions-là, comme tu disais, en accord avec l'OCDE. J'espère que ça va faire bouger les choses au sein de la boîte, parce qu'on se retrouve à accumuler les rapports et les mettre sur les tablettes, mais il est temps que ça bouge.
Il est temps que ça bouge, parce que dans les rapports, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de pistes de solutions et d'actions. Tu parlais justement de Pêche et Océans Canada, la commissaire attirait l'attention plus spécifiquement sur le saumon de l'Ouest mm-hmm. canadien qui est en danger pour plusieurs raisons, entre autres pour perte d'habitat naturel. Donc, je pense que c'est justement un bon exemple de... Si on pense qu'ici, la morue a disparu, bon, on s'apprête peut-être à faire la même chose avec le saumon, c'est le temps justement de penser à ne pas dabletter les rapports, mais bien en faire des outils d'action concrets. J'ai entendu des drôles de choses sur le développement durable, on en parle souvent. J'ai entendu dire que c'était générationnel. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nicolas?
C'est intéressant, mais ça dépend si on parle de l'utilisation du terme développement durable ou de la mise en application du terme développement durable. Je pense qu'il y a une certaine différence entre l'approche générationnelle des jeunes puis l'approche des plus vieux, qui ont cette tendance à probablement utiliser plus facilement l'approche développement durable comme telle, mais sans vraiment savoir ce que ça implique, tandis que de ce que je vois dans notre éducation maîtriseuse en sciences de l'environnement, c'est vraiment l'intérêt à appliquer au concret, à passer à l'action, à s'assurer que le terme développement durable est quelque chose de palpable, de quelque chose qu'on peut mettre en application dans la vie de tous les jours. Puis j'espère que cette espèce d'urgence d'action dans notre génération va pouvoir passer, se transmettre dans la génération des baby boomers et de ceux qui ont suivi.
On a vu toutes les autres crassies. Maintenant, on veut la manger crassie ou rien. Allez, dis aux hommes politiques nous, qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent, et après ils viennent jouer aux pompiers, man.
On a tout compris.
On nous gagne à Yézizan, en voilà au Calama. On nous gagne à Yézizan, en voilà au Calama.
On a tout compris.
Gounde talonye ma ganyo.
On a tout compris.
Gounde talonye ma ganyo.
On a tout compris.
Boumake boubara malakani.
On a tout compris.
Madalami dalami gambenda.
On a tout compris.
Madalami manamana kanyenda.
On a tout compris. On a tout compris.
Ngunda tala nyima kanyo.
On a tout compris.
Ngunda tala nyima kanyo.
On a tout compris.
Destination qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent, et après ils viennent jouer aux pompiers, papa.
On a tout compris. On a tout compris.
C'est toujours le même scénario.
On a tout compris.
Les marchands d'illusions sont là.
On a tout compris.
Ils nous font rêver debout.
On a tout compris.
Ils achètent nos consciences. Contre des
miels.
Madalami dalami gambenda.
On a tout compris.
Wo madalami manana gambenda.
On a tout compris.
Ngunde talanye magani.
On a tout compris.
Ngunde talanye magani.
On a tout compris.
Wo madalami dalami gambenda.
On a tout compris.
Wo madalami manana gambenda.
On a tout compris.
Ngunde talanye magani.
On a tout compris.
Ngunde talanye magani.
On a tout compris.
Ngunde talanye magani.
On a tout compris.